Philippe et son ami n'avaient plus que très peu d'instants à rester ensemble. Il se faisait tard. À l'est, l'ombre envahissait graduellement le ciel, tandis qu'à l'horizon opposé, de gros nuages s'éteignaient des couleurs éclatantes du couchant. C'était quelque chose de merveilleux à voir que ces longues zones horizontales qui du bleu pâle passait au vert tendre, puis au violet, puis au rouge sanglant, puis à l'or en fusion. Oh, vous eussiez dû une splendide écharpe indienne bordée d'une frange d'or. C'était l'heure où le Pierrot, paresseux, sur le bord de son trou, piaille comme un enfant qui a sommeil, où la chauve-souris entr'ouvre son œil clignotant et étire ses bras palmés, où les hirondelles, jalouses de présager par leur vol à perte de vue un beau lendemain, se croisent dans l'air et s'y dessinent de grandes courbes analogues à celles d'un patineur sur la glace. En même temps que l'allumeur de candélabre, armé de sa lampe plus longue que la langue d'un cosaque, enflammait successivement le gaz des lanternes, quelques étoiles, comparables sur le crépuscule à des pointes de fer rougies à blanc, émergeaient çà et là dans l'espace. Jean, qui ne voulait pas attendre jusqu'au lendemain la fin de l'histoire, pressa son ami de lui en dire rapidement le dénouement. « Oh, je n'ai plus au reste que deux ou trois faits à mentionner, » ajouta Philippe. « Comme vous le devinez sans doute, je me gardais bien d'instruire le mari et la femme de leur sort respectif. J'éprouvais la plus profonde répugnance à les voir se réunir et se réconcilier dans la salle même de l'hospice. Je me bornais à leur affirmer que tout irait bien et à exiger d'eux un peu de patience. Intérieurement, je méditais les moyens de faire couler de leurs yeux autant de larmes de joie que j'en avais fait couler de chagrin, et acquitter envers eux ce que je considérais comme une dette envers eux. Je choisis un jour où précisément mon cousin dînait à la maison. Mon silence et ma tristesse depuis quelque temps ne laissaient pas que de surprendre mon père et ma mère. Jusqu'alors, dans ma famille, on ne m'avait pas fait l'honneur de m'attribuer des sentiments sérieux, et j'y passais avec assez de raison pour plus enclin au plaisir qu'au travail. J'avais même bien des fois à essuyer à ce sujet des reproches mérités. Un accident m'avait tout à coup mûri et fait homme. Je ne pensais plus qu'il fût honteux d'avoir de la sensibilité et de la laisser voir. Le soir venu, contrairement à mon habitude, je ne sortis pas. Interrogé des yeux par ma mère et verbalement par mon père, je les terrassais brusquement l'un et l'autre par cet aveu énigmatique. En effet, dis-je d'un ton d'humeur, tel que vous me voyez, je suis très malheureux. Sans y penser, sottement, avec une légèreté inexcusable, j'ai causé le malheur des deux meilleurs êtres du monde. Oh, je ne vous cacherai pas que je prétends à n'importe quel prix réparer ma sottise et que j'ai besoin pour cela de votre concours. À cette déclaration, mon père, ma mère, mon cousin s'entre-regardèrent avec la plus profonde surprise. Je présume qu'ils craignirent un instant que je fusse devenu fou. Je les tirai au reste bien vite d'erreur. Reprenant aussitôt la parole, je racontai ma rencontre à Vincennes avec Louise et toutes les misères qui en étaient résultées pour elle. Si je glissais assez volontiers sur le mobile déplorable qui m'avait inspiré en cette occasion, je m'appesantis du moins sur les conséquences qu'avait eues ma faute. Je fis minutieusement l'historique des infortunes de Louise et les présentait sous le jour le plus touchant. Oh, j'eus vraiment de l'éloquence! Mon récit n'arracha d'abord que des syllabes de stupéfaction. À la scène du café, je vis les yeux de ma mère se remplir de larmes. Elle ne put décidément retenir ses sanglots quand je lui peignis Louise à la suite de cette scène, errant comme une folle à travers les rues, succombant sous le poids de son enfant, et enfin s'évanouissant pour être ramassée et transportée à l'hospice. Mon père, lui aussi, était ému jusqu'aux larmes. Il ne cessait de répéter: Oh, la pauvre enfant, la pauvre enfant! Le cousin seul, dans le coin de son œil, ne trouvait pas une larme au fond de son cœur, pas un mot de compassion. Sous son air contrit, je reconnus même les indices d'une joie maligne. La rancune prospérait au fond de sa mauvaise nature. Le souvenir des dédains de Louise y était aussi vif qu'au premier jour. Je ne pouvais pas douter qu'il ne se réjouît de la voir malheureuse. Aussi sentis-je au-dedans de moi s'amasser et gronder une sourde colère contre lui. Ma mère, dans son émotion, ne puisait pas encore les sentiments que j'attendais d'elle. En son âme, le malheur de Louise n'étouffait qu'à demi un vieux levain de ressentiment. À peine eus-je laissé entrevoir ce que je comptais faire, qu'elle gâta son attendrissement par cette réflexion cruelle. Bon, elle est à plaindre, beaucoup à plaindre sans doute, mais c'est bien aussi un peu de sa faute. Pourquoi m'a-t-elle quitté? Cela me parut barbare. Jacques, qui n'avait pas encore soufflé mot, s'enhardit jusqu'à ajouter: Oh, ma tante a raison. Ah, je ne fus plus maître de moi. Les sourcils froncés, l'œil étincelant, les narines ouvertes, respirant à peine, je me tournai vers lui d'un bond et lui lançai cette apostrophe comme une flèche empoisonnée. Mais de quoi se mêle monsieur Jacques? Qu'est-ce qui lui demande son avis? Les gens de cœur et lui n'ont rien à démêler ensemble. À la suite de cette sortie qui le rendit muet comme un poisson et le fit en quelque sorte rentrer sous terre, je fis face à ma mère et m'adressai à elle. Sans me départir du respect que je lui devais, je lui fis remarquer avec force qu'elle ne pouvait, à moins de la plus criante injustice, blâmer la conduite de Louise et l'accuser d'ingratitude. Je soutiens, continuai-je, que par son travail, ses soins, sa patience, son dévouement, elle vous a rendu, et au-delà, les bienfaits dont vous prétendez l'avoir comblée, et qu'au contraire, vis-à-vis d'elle, vous pouvez bien avoir un instant oublié d'être bonne et généreuse. Mais elle a bravé mon autorité, dit ma mère, elle a méconnu tous ses devoirs envers moi. Mais en quoi, répliquai-je, pour avoir refusé de lier à son sort un homme ridicule qui ne lui inspirait que de l'aversion, et avoir obéi à son penchant, elle n'est pas après tout si criminelle. D'ailleurs, reprit ma mère, nous ne lui devons rien. Mais moi, m'écriai-je, je lui ai causé un préjudice presque irréparable. Sous peine d'être un malhonnête homme, sous peine de commettre une lâcheté qui empoisonnera ma vie entière, il m'est interdit de m'envelopper dans mon égoïsme et d'assister les bras croisés à un malheur dont je suis l'unique source. Ma mère, par son hochement de tête et par son air, m'indiquait qu'elle trouvait mon opinion exagérée. Oui, poursuivis-je avec une chaleur croissante, dans ma conviction, pour que mon honneur soit sauf, pour que ma conscience soit tranquille, pour que tout mon avenir ne soit pas entaché, il faut une réparation éclatante qui dépasse, si c'est possible, l'importance de mon tort. Je suivais sur le visage de ma mère les oscillations de sa volonté ébranlée. Oh, je touchais au but. Je m'empressai d'ajouter « Mais avez-vous donc perdu la mémoire ? Mais cette enfant, vous l'avez vue naître, elle s'est développée sous vos yeux, elle a été la compagne de mon enfance. Son gracieux visage, sa jolie voix, son attachement tout filial pour vous, n'ont cessé de charmer vos yeux, vos oreilles, votre cœur. Faut-il que je vous rappelle encore sa mère, cette brave femme qui a été la providence de mes jeunes années, dont les soins et les veilles m'ont sauvé la vie? Et vous hésitez, et votre cœur ne se fend pas en songeant que cette Louise, presque votre fille, en a été réduite à errer par les rues comme une mendiante, à chanter dans les cafés, à tendre la main. Et vous n'avez que des larmes stériles, quand vous savez qu'elle gît sur le lit d'un hospice, qu'elle est à la veille d'être mise dehors, sans ressources, avec son enfant, et tout cela par ma faute, par la faute de votre fils. » Ma mère sanglotait de nouveau et semblait me demander grâce. J'étais dur, sans doute, mais il le fallait. À moins de cela, je n'eusse peut-être pas réussi à vaincre son ressentiment. Je terminai en regardant mon père. Oh, je le savais le meilleur homme du monde, mais en même temps un peu trop économe, sinon parcimonieux. « Finalement, dis-je avec une fermeté qui dut le faire frémir, je vous préviens que je suis prêt à sacrifier une partie de la dot que vous me destinez, à engager ma signature, à grever mon héritage, à me ruiner pour avoir l'argent dont j'ai besoin. » Je veux bien croire que ma mère ne fut point fâchée de m'entendre parler avec cette chaleur. Le fait est que je réussis à lui faire partager toutes mes intentions. En réalité, sa tendresse pour Louise n'était qu'endormie. Elle se réveilla en son cœur avec une nouvelle intensité. Mon père, de son côté, aida à cette heureuse révolution en convenant qu'il fallait s'occuper de Louise et la rétablir dans la situation où elle était avant l'accident. Et je vis ma bonne mère aussi ardente bientôt que d'abord elle avait été tiède, et l'entendit avec bonheur déclarer qu'elle prétendait se charger de tout. Je lui donnai de grand cœur carte blanche, sachant qu'elle était libérale et plus capable que personne de bien faire les choses. Quant à Jacques, il ne savait plus décidément quelle contenance garder. Dans la petite guerre qui venait d'avoir lieu, il avait embrassé maladroitement le parti de l'injustice. Il se trouvait vis-à-vis de nous tous dans la position la plus fausse. C'est ce qu'il comprit parfaitement. Son nez s'en allongea et devint rouge, selon ce qui arrivait toujours dès qu'il était en proie à une émotion quelconque. Philippe, qui, sans y songer, avait continué de se complaire en son récit, parut décidément jaloux d'être bref. Et il reprit avec précipitation. Le jour arriva enfin où fut signé l'exéat de Louise. Je lui avais prodigué des espérances, mais je ne lui avais fait aucune promesse formelle. Le matin, au moment de s'habiller, elle trouva près d'elle, sur une chaise, l'une des robes que la misère l'avait obligée de mettre en gage. Vers 11 heures, je vins la chercher, et la conduisit moi-même au parloir. Ma mère en personne l'y attendait. Elle tenait le petit Moser sur ses genoux. À cette vue, Louise fut saisie d'une émotion qui faillit l'étouffer. Je sentis tout son corps trembler et vis l'heure où elle allait perdre connaissance, ce qui me fit regretter un instant de ne pas l'avoir prévenue. Mais le bonheur de voir et d'embrasser son enfant lui donna la force de surmonter cette faiblesse. Elle me quitta brusquement et courut d'une haleine à son petit garçon qu'elle souleva dans ses bras et dévora de caresses. Elle prit ensuite l'une des mains de ma mère et l'inonda de larmes. Ma bonne mère, elle aussi, pleurait et embrassait sa pupille avec effusion. J'étais troublé dans la satisfaction que me causait cette scène pathétique par la présence de deux ou trois témoins étrangers. Le plaisir que je ressentais ne m'absorbait pas, comme Louise, au point de me rendre indifférent à ce qui se passait autour de moi. Je pressais ma mère de partir. Nous montâmes en voiture et prîmes le chemin de la rue des Marais. En route, Louise, incapable de tenir en place, se remuait comme une folle. Elle ne pouvait se rassasier de contempler son enfant, de le baiser, de le serrer contre elle. Sa reconnaissance pour nous éclatait dans ses yeux et dans des exclamations de joie. Elle s'interrompit tout à coup au milieu de ses élans pour m'interroger du regard avec tristesse. Oh, je n'eus pas de mal à la comprendre. La tournure de mon esprit est loin d'être romanesque, et au rebours de ma mère, je n'aime que médiocrement les surprises. Je jugeai donc à propos de préparer Louise au surcroît de bonheur qui l'attendait. Je lui dis que j'avais enfin des nouvelles de Moser. « L'avez-vous vu ? » s'écria-t-elle. « Oui. » Elle m'envisagea avec anxiété. « Eh bien, » fit-elle. « Mais il a été malade aussi, » répondis-je laconiquement. « Je suis parvenu à lui faire entendre raison. Vous le verrez sans doute bientôt. » Pénétré de repentir et plus épris de vous que jamais. En signe de remerciement, Louise s'empara de ma main et la pressa sur son cœur. De nouvelles larmes affluèrent à ses yeux et mouillèrent ses joues pâles. Nous arrivâmes. Mon père accueillit la pauvre fille avec une bonté toute maternelle et lui dit obligeamment qu'elle avait passé le temps des épreuves, qu'elle n'avait plus que d'heureux jours à espérer. Elle fut fêtée, choyée, caressée autant qu'un malade chéri qui, contre toute espérance, reparaît plein de santé. Des personnes qu'il avait jadis connues voulurent la voir, l'embrasser, la complimenter. Bien que profondément touchée de ces marques d'affection, un souvenir pénible allait et venait dans son cœur et y modérait le ravissement. L'exéade de Moser avait été signé en même temps que celui de sa femme. Je lui avais donné rendez-vous à la maison. Je m'impatientais déjà de ne pas le voir arriver. Sur ces entrefaites, ma mère dit à Louise « Maintenant, ma fille, montons chez toi. » Louise et moi tout le premier la regardâmes d'un air profondément surpris. Tout en arrachant mes intentions à l'égard du mari et de la femme, ma mère avait constamment refusé de me dire les siennes. Et parvenus au troisième, nous nous arrêtâmes en face d'une porte dont la clé était à la serrure. Ma mère, pour ménager l'effort de Louise, avait pris le petit Moser dans ses bras. « Sonne, ma fille !» lui dit-elle. Des pas se firent entendre. Louise les reconnut. Sans plus attendre, elle tourna la clé, poussa la porte et tomba évanouie dans les bras de Moser. Je renonce, faute de temps, à décrire cette scène. Je vous abandonne volontiers ce soin. Avec mon secours, Moser transporta sa femme dans un fauteuil et s'agenouilla devant elle. Il pleurait et embrassait ses mains et la surveillait avec tendresse, en attendant qu'elle revînt à elle. À peine rouvrit-elle les yeux, qu'elle se pencha passionnément sur lui et mêla ses larmes aux siennes. Longtemps les sanglots étouffèrent les paroles dans leur gorge. Ma mère et moi regardions ce spectacle en silence, transportés l'un et l'autre d'un contentement sans bornes. Ah, pour ma part, je crois bien avoir éprouvé dans cette occasion la plus pure, la plus vive jouissance que j'ai ressenti et ressentirai sans doute dans toute ma vie. Je ne saurais vous dire combien j'étais heureux d'avoir contribué à une scène qui, dans l'espèce, comme dirait un homme de loi, est bien l'une des plus touchantes qu'on puisse imaginer. Toutefois, les transports de leur ravissement se calmèrent par degrés, un peu d'ordre s'introduisit dans le chaos de leurs sensations, ils retrouvèrent enfin la voix et la parole pour s'accabler de questions réciproques. Au milieu de leurs récits entrecroisés, ils ne cessaient de s'interrompre pour caresser leur enfant et tourner vers nous leurs yeux pleins de larmes. On lui dit qu'il se réveillait d'un long rêve et jouissait d'une nouvelle union dans un monde meilleur que le nôtre. La pièce où nous nous trouvions était la principale d'un petit logement d'une propreté exquise et de l'apparence la plus gaie. Sans me prévenir, ma mère l'avait arrêté et l'avait fait meubler d'une manière tout à fait confortable. Des rideaux en perse joyeuse garnissaient les fenêtres, une glace et une pendule en albâtre ornaient la cheminée, les tiroirs d'une commode et les rayons d'une grande armoire avaient été comblés de linge et d'objets de toilette, une étincelante gamme de casseroles en cuivre, une collection de plats et de pots en faïence illustraient les murs et le dressoir d'une petite cuisine bien propre et bien claire. Dans sa prévoyance généreuse, ma mère avait été jusqu'à égayer le logement d'une série de jolies estampes coloriées et la margelle des fenêtres des plus belles fleurs de la saison. C'était bien plutôt l'intérieur d'une petite rentière que celui d'ouvriers pauvres. Ma mère le parcourut avec le mari et la femme et leur en fit apprécier tous les agréments. Bien que l'esprit de prévoyance d'une ménagère fût visible jusque dans les moindres détails, ma mère dit à Louise « Vois, si tu as ce qu'il te faut, je pourrais avoir oublié bien des choses. Au surplus, je crois avoir mis dans le tiroir du milieu de la commode un peu d'argent pour voir au plus pressé. D'ailleurs, d'ici à ce que ton mari ait trouvé de l'ouvrage, il n'y en a pas un petit fonds de réserve à votre disposition. » Tant de libéralité, tant d'attention délicate remplissaient Louise et son mari de reconnaissance. Ils cherchaient au fond de leur cœur, pour l'exprimer, des mots qui ne venaient point à leurs lèvres. J'avoue que je n'étais pas moins content qu'eux. Que vous dirais-je de plus ? Moser est redevenu, comme devant, le plus laborieux, le plus économe des ouvriers, en même temps que le plus tendre des maris et le meilleur des pères. Il a rendu à sa femme une confiance exclusive, que les apparences même les plus compromettantes ne seraient pas capables d'altérer. Son amitié pour moi rend Louise presque jalouse. Je les vois au moins une fois chaque semaine à la maison, où ils dînent avec nous en famille. Ils ont, à l'heure où je vous parle, deux enfants, qu'ils élèvent fort bien, au sujet desquels ils font les plus beaux rêves. Vous ne serez peut-être pas fâché non plus d'apprendre que leur présence a décidément mis en fuite mon cousin Jacques. Bon, on ne le voit plus. Je suis privé du plaisir de contempler sa face sournoise et de l'entendre me rappeler le canard de Vaucanson. Voilà mon histoire. Faites-en ce que vous voudrez. C'est au moins un canevas facile à étendre, à broder et à embellir. Oh, Dieu m'en garde, s'écria Jean en serrant la main de son ami Philippe. La chose est complète ainsi. J'ajouterai même que, sans vous en douter, vous m'avez conté une histoire qui est l'image des trois phases ordinaires de la vie. Au début, l'amour, au milieu, la lutte, et au déclin, le repos. Je me bornerai à reproduire votre récit aussi fidèlement que possible. Et je m'estimerai heureux si je parviens à causer à autrui le plaisir que j'ai éprouvé en vous écoutant.